pas à chaque fois qu'il parle de la météo, moi je regarde Québec, toi, Gatineau, 8.
Arrête-toi donc, toi.
Oh non.
Écœure-nous pas avec ton bonheur.
Oh oui, puis attends, toi, appelle-moi pas dans 3 mois, tu sais où je vais être.
Tu vas être où?
En Floride.
En Floride, ah ouais.
Je passe l'hiver en Floride, moi, en
Mais
plus.
t'en profites, mais tu continues d'écrire quand même, Jean?
Ça change rien, ça. Puis c'est ce qui est magnifique
Ouais.
aussi, ça, je dois le dire, avec la technologie. Moi, je me mets en rapport avec mes auteurs. Puis je vais t'expliquer ça, pourquoi je dis ça, mes auteurs, là. Puis je me mets en rapport avec mon éditeur à Paris. Alors, que je sois à Fort Lauderdale, que je sois à Daytona Beach, à Québec, Montréal, où tu veux, ou même en Abitibi, dans le bois, en autant que j'ai un Wi-Fi, moi, je travaille. Ça revient exactement au même. Et l'histoire de Messenger, puis de StreamYard, puis Zoom, c'est fantastique parce que là, j'ai, surtout avec mes auteurs, parce que je leur parle, puis quand je leur dis quelque chose que je sais qu'ils vont pas aimer, au moins, je leur vois à face. T'sais. Parce que je suis capable de contrôler un peu le débit.
Ouais.
Alors, non, non, tu sais, moi, je veux dire, là-dessus, Internet, c'est magique. J'aurais pas pu faire ça dans les années 90, t'sais. Mais là,
Ouais.
oui, là, c'est
Mais
faisable.
puis
Ouais.
tu continues de travailler à distance, c'est le fun. Puis là, ces temps-ci, tu planches sur quoi, Jean?
Bon, ben là, moi, depuis, en fait, c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans. J'ai voulu mettre sur pied une collection de livres, mais qui auraient été écrits par les gens qui ont vécu quelque chose. Moi, ce que je les appelle des expérienceurs, c'est des gens qui ont vécu de l'ufologie, qui ont vécu du paranormal, métaphysique, peu importe, tu sais de quoi je parle, là, bon,
Oui.
qui ont vécu ça intensément, on
Ouais.
s'entend. Moi, le gars qui a vu passer une petite lumière dans sa cour le 24 juin, là, après 2 caisses de bière, ça
C'est
m'intéresse
pas
pas.
ça. Mais un expérienceur, Jean, ça pourrait être quelqu'un qui a expérience, qui a eu comme expérience, qui a l'impression d'avoir vécu une vie après la mort. Tu sais,
Oh.
une mort, l'expérience de mort imminente. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, hein?
Oui, c'en est une, ça. Ça, c'est un exemple. Mais tu as aussi des sorties du corps, des sorties extracorporelles, des senti le sentiment d'être enlevé par des créatures qui ne viennent pas d'ici, et d'autres manifestations comme la voyance, la télépathie, évidemment, ce qui est la plus spectaculaire. C'est de voir carrément des êtres qui sont décédés, qui sont drettes au pied de ton lit, puis c'est la jasette est partie, là.
OK.
Alors ça,
Puis, tu sais,
c'est très...
les sorties extrasensorielles, moi, je t'avais déjà raconté cette histoire-là. J'ai pas l'impression d'avoir vécu une sortie extrasensorielle. Moi, j'ai fait une paralysie du sommeil. Puis, je vais te dire, j'en ai fait deux. Puis, la première fois, je l'ai faite, Jean, j'ai eu peur parce que je savais pas c'était quoi. Puis,
Mais qui t'a dit que c'était une paralysie du sommeil?
ben, en fait, moi, je me suis référé à la science, là.
Ah, mais c'est ça. Ça,
C'est-à-dire
c'est le
que.
problème. Non, mais c'est un gros problème, ça. Il y en a.
Mon
Je suis
cerveau
sérieux,
était.
là.
Oui, mais je sais, mais tu me l'expliqueras après. Mais moi,
Ouais.
mon cerveau était réveillé. J'étais conscient de tout ce qui se passait autour de moi, sauf que je n'étais pas capable de bouger. Puis
Oui.
quand mon corps s'est débarré, je pense que je peux l'utiliser dans ces propos-là. Quand mon corps s'est débarré, ben là, j'ai pu recommencer à bouger. Mais j'ai eu peur. Je pensais que j'étais rendu quadriplégique. Genre, mes yeux ouvraient plus. Là.
Oui, je sais. Ça, là, il faut comprendre une chose. La science, à l'heure actuelle, moi, j'ai rien contre la science, là. J'ai rien contre la rigueur scientifique. Je l'applique moi-même dans mes recherches. C'est pas ça le problème. C'est que la science n'est pas rendue là. Elle n'est pas rendue là, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, un, elle n'a pas l'intérêt non plus, d'une part. Ben, tu ne vois pas grand physicien ou biologiste ou qui tu voudras. S'intéresser aux expériences de mort imminente ou à tout ça, parce que c'est tagué, cette affaire-là, de folie, hérésie, ainsi de suite, puis ils ne veulent pas toucher à ça. C'est une question de réputation aussi. Il y a ça. Quoi qu'il y en a, des hommes de science extrêmement sérieux, très compétents, qui se sont jetés là-dedans. Mais, pas ça mon point. Mon point, c'est que c'est un peu comme, est-ce qu'il y a de la vie intelligente sur d'autres planètes? Tu demandes ça à un astronome. Ben non, monsieur, oh, non, 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 non. Ben oui, non, 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 parce que t'as pas les lunettes pour voir, t'as
Ouais.
pas la technologie qui te permet de dépasser le bout de ton nez avec ton télescope, là. Même James Webb, qui est quand même une fabuleuse innovation technologique en matière d'astronomie, qui est un télescope infrarouge, lui pourrait arriver avec des choses intéressantes. Mais ce n'est pas fait. Hein. On ne l'a pas, la technologie. Mm-hmm. Et on n'a pas non plus une technologie qui pourrait capter ce qu'on appelle un esprit ou capter une force qui tu sais, quand tu vois des... Ça existe, là, qui, là... une couline... Ah, mon Dieu, moi, les noms, là. En tout cas, je ne me souviens plus de son nom. Une Russe. Qui est capable de faire bouger des objets. Puis ça, là, je ne te parle pas d'une femme qui fait du cirque, là. Je te parle d'expériences qui ont été faites en laboratoire. Ouais.
Mais les scientifiques, c'est sûr qu'ils vont toujours se baser sur la science.
Ils n'ont pas la technologie, s'ils ne l'ont pas.
Mais Jean, ils peuvent quand même émettre certaines hypothèses. T'sais, souvent, moi, quand je jase avec des astrophysiciens, si je leur demande, croyez-vous qu'il y a quelque chose de vivant au-delà de la planète Terre, certains vont me dire, ben Yann, moi, je pense que oui, moi, je pense que non. Mais tu sais, qui ont est pour penser qu'on est seul dans l'univers?
On comprend ça. Alors, dans ce cas-là, pourquoi eux ont le droit de faire des hypothèses, pas nous autres? Pourquoi nous autres, on passe pour des maudits fous si on en fait? Puis eux autres, ils ont l'aura de leur sarrau blanc, puis eux autres peuvent se permettre d'émettre des hypothèses, expliquant tout, ramenant ça à leur rationalisme traditionnel.
Ouais, je comprends tout
Et
ça.
Si nous, on arrive puis qu'on en fait des hypothèses, c'est de l'hérésie scientifique, ça ne tient pas la route, ce sont des fumistes puis des cires. Hey, voyons donc, ça fait 55 ans que je suis là-dedans. Là.
Oui, mais il faut que ça... Eux préfèrent y aller avec ce qui est de connu, ce qui est de prouvé, ils travaillent avec
normal,
ça.
C'est normal, ils veulent pas, ils marchent sur le trottoir, ça va bien. Moi, je suis dans des sentiers qui n'ont jamais été battus, puis c'est moi qui les ouvre les sentiers, fait que oui, c'est un peu moins confortable, j'en conviens, mais moi, j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur de m'aventurer là-dedans. Pas en tout, j'ai pas peur de faire rire de moi, même si ça arrive, puis j'ai pas peur qu'on me traite de tout et non, même si ça arrive. Mais tu sais, on appelle ça des pionniers, puis on est nous, les ufologues, puis les gens qui s'intéressent à ça. On est des pionniers, c'est clair, parce qu'on est loin d'avoir atteint une masse critique de gens qui sont confiants là-dedans. La religion leur a dit de se fermer à gueule pendant 2000 ans, la science a embarqué tout de suite après. C'est le pauvre monde, sont pognés. Ceux qui n'ont pas de culture ufologique ou paranormale, ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent, mais ils lèvent les épaules, puis ils doivent de la merde.
Non, je comprends tout ça, mais où s'arrêtent les croyances par rapport au travail qu'eux autres font? T'sais, eux, les croyances, ils laissent ça à l'extérieur. Ils essaient de plus de travailler sur les choses connues, puis ils peuvent émettre des hypothèses.
C'est correct. Chacun son combat. Moi, je veux dire, regarde, si ces gens-là veulent faire des cellulaires quadridimensionnels, moi, ça me dérange pas. Ils peuvent arranger ma TV, moi, qu'elle soit 3D sans que j'aie apporté de lunettes, bravo. Ouais. Tu peux m'envoyer des fusées 6 fois plus rapides, ça, là, c'est parfait.
Mais Jean, la place de...
Chacun son terrain.
Ouais. La place des croyances dans les recherches ufologiques, c'est quoi le pourcentage?
C'est pas une question de croyance. C'est une question de déduction. Je veux dire, on émet une hypothèse qui tient la route, puis après ça, on essaye de déduire ce qui peut expliquer ça, mais en incluant des explications qui, aux yeux des scientifiques, eux autres, sont impossibles parce qu'eux autres ne veulent pas se risquer dans l'hypothético-déduction, qui est pourtant une méthode scientifique de Karl Popper. Ça existe, et c'est celle-là qu'on applique, nous.
Je comprends.
On part d'une hypothèse, puis on essaie de construire un édifice structurel qui tient la route, mais on peut y croire, on peut ne pas y croire. Moi, là, ma collection de livres, les femmes qui écrivent dans ça, là, je veux dire, j'en ai quoi, une dizaine, là, la question n'est pas de savoir si j'y crois ou pas. La question est de savoir est-ce que ça tient la route. Ah, ça, c'est une autre histoire.
Voilà, OK, je comprends. Je comprends. Mais juste revenir à mon expérience à moi. Là. Moi, j'ai vécu ce que je crois être deux expériences de paralysie du sommeil parce que je me suis référé à la science puis ils me disent c'est ça. Dans ton cas à toi, ces expériences-là, dans ton champ d'études à toi, ça pourrait être quoi?
C'est ce qu'on appelle des sorties extracorporelles. J'ai pas dit extrasensorielles, j'ai dit des sorties extracorporelles ou, si tu préfères en hébreu, out-of-the-body experiences. Alors ça, c'est un phénomène reconnu en parapsychologie. Ça s'appelle vraiment comme ça, out-of-the-body experiences. Mais comme la science dont tu parles, n'a pas les moyens technologiques de vérifier ce qui se passe, même si tu avais été à l'hôpital puis qu'on t'avait mis des gugus à la tête puis qu'on t'avait filmé, pendant ta paralysie du sommeil, ils n'auraient rien capté. Ce n'est pas dans leur champ d'observation, pas plus que les caméras de 1930 étaient capables de capter ce qu'on capte aujourd'hui avec les nôtres. Ils ont évolué, la technologie a évolué, on peut voir l'infrarouge, on peut le photographier, l'ultraviolet, on peut le photographier, on ne pouvait pas dans ces années-là, c'est impossible. On aurait dit ça, les gens auraient dit, ben oui, non, c'est impossible. Bon, ben là, ça l'est. Ben dans 50 ans, peut-être qu'on sera capable okay. de photographier un esprit ou quelque chose du genre, puis là, ils vont se fermer la gueule, puis ils vont dire, ah, oh, ils avaient raison.
Okay. Parce que moi, dans ma paralysie du sommeil, la deuxième était moins pire parce que j'avais l'impression que je savais c'était quoi. Mais la première, Jean, là, j'étais angoissé. Écoute, tu te réveilles, tu n'es pas capable de te lever, tu n'es pas capable mm-hmm. de bouger. Ton cerveau ah, ouais. essaie d'envoyer de l'information à tes membres pour que ces membres-là oui, puissent c'est... bouger. Ça ne fonctionne pas. Puis pourtant, si tu me demandais comment je me sentais à l'extérieur de ce que je viens de te dire là, ben, j'entendais tout ce qui se passait autour de moi. Je savais exactement où est-ce que j'étais, la surface. Là, mm-hmm. J'étais couché sur le divan, j'étais brûlé mort. Puis je savais dans quelle position que j'étais. Je me souviens de ce qui jouait à la télé. Hey, c'est fort, là. Tu sais, je veux dire, c'est un événement qui m'a marqué.
C'est, moi, ça ne m'impressionne pas. Regarde, moi, j'ai vécu ça, je ne sais plus combien de fois.
Ça t'est déjà arrivé?
Ben oui. Mais moi, je n'appelle pas ça paralysie du sommeil parce que je n'écoute pas la science sachant qu'elle n'est pas capable de répondre à ça. Elle n'est pas capable de répondre à ça. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les scientifiques? Ils enlèvent l'élément psychique de l'équation. Ils l'enlèvent. Alors, quand tu dis E égale MC2, si tu enlèves le M, l'équation ne marche plus.
Marche plus.
Ah, ben, c'est ça. Eux autres, ils font ça. Expérience de Yannick Marceau. Cazot dit que ça pourrait sortir du... Non, on l'enlève ça. Enlevez ça. OK. Là, on va trouver une explication okay. rationnelle. Ils inventent une explication. Ils ne sont pas capables de la prouver, la paralysie du sommeil, en passant. Et c'est une opinion. C'est que ça. Ils émettent une opinion... basé sur le peu qu'ils connaissent de cette phénoménologie-là.
Okay.
Et là, ils disent à M. Marceau, vous avez vécu une paralysie du sommeil. Puis le gars, il a un beau sarrau blanc, il a une tête de scientifique, puis il a des lunettes rondes. Fait qu'Yannick, il dit, bon, ben OK, c'est une paralysie du sommeil, d'abord.
Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que les scientifiques ont commencé à s'intéresser à ça, parce que partout
non,
sur la Terre...
Vrai. Pas vrai, ils ne sont pas intéressés à ça. Ils se sont débarrassés de ça.
Ben, ils se sont débarrassés de ça.
En inventant la paralysie du sommeil.
Mais laisse-moi parce aller, tu vas comprendre oui. où je veux aller. Les scientifiques ont entendu parler de ça parce qu'ils se disaient, un peu, partout sur la Terre, il y a des gens qui rapportent ce genre de phénomène-là. Faut trouver une explication scientifique. Ils ont parlé de paralysie du sommeil, mais moi, j'ai d'autres personnes qui m'ont dit, ben Yann, parle avec Jean Cazot. Lui, il va peut-être t'expliquer que ça pourrait être, puis là, il parlait à ta place, là, tu sauras me dire si c'est ça, mais il dit, ça pourrait être une porte vers les voyages astro. Parce que semblerait qu'il y a des gens qui sont capables de faire des voyages astro.
Oui, mais ça, c'est juste une question de vocabulaire. Ils ont parfaitement raison, ces gens-là. Mais sauf que j'utilise pas ce vocabulaire-là parce que c'est un vocabulaire qui date du 19e siècle, qui est importé des doctrines de Blavatsky et de Steiner, qui est un milieu métaphysique très particulier. C'est une école de pensée. Alors, quand on utilise le mot « voyage astral »,« sortie astrale », ben c'est un vocabulaire qui appartient à quelqu'un, ça. Et ça ne m'appartient pas à moi, parce que je n'épouse pas toutes les prétentions de Blavatsky et Steiner, même si j'en ai parlé dans mon avant-dernier livre. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais je n'aime pas m'accoler au mot astral, pas plus que quand je rencontre quelqu'un, j'ai dit namasté, j'ai dit bonjour. Alors, non, mais c'est le même principe. C'est toutes des affaires qui viennent des Indes, puis ça vient du 19e, même 18e siècle. C'est toute l'importation. Moi, non, moi, je fais du made home. Alors, moi, c'est out of the body experience en anglais que j'ai traduit par sortie extracorporelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sortie extracorporelle où l'individu n'a aucun contrôle sur lui, ça existe. Mais il y en a une pléthore où tu aurais pu t'ouvrir les yeux, te lever même, bouger, ou tu n'aurais pas eu cette sensation-là d'être paralysé. Et ça aussi, je l'ai vécu en masse. Alors, tu sais, je veux dire, puis mes auteurs aussi. Fait qu'il n'y a pas rien que la maudite paralysie du sommeil comme explication, parce qu'il y a autre chose que... le syndrome du paralysé dans ça. Ça, c'est un pourcentage X qui s'applique à des gens, probablement qui sont paralysés parce que, je ne sais pas, il se produit une espèce de choc qui les traumatise, je ne sais pas. Mais moi, j'ai vécu des choses qui n'ont rien à voir avec ça, okay. Mais qui sont des sorties extracorporelles.
Mais raconte-moi-en, là. Tu sais, une qui t'a marqué plus qu'une autre.
Ah, ben écoute, moi, on est venu carrément me mettre la main sur une épaule, puis j'étais couché sur le ventre. Ça, je raconte ça dans mon bouquin. Je t'étudie mon bouquin, qu'est-ce qu'il est, là?
Lequel?
50 ans d'ufologie profonde.
Oui, ça, c'est ton dernier, ça.
Ça, c'est le dernier, ça. Toujours bien le plugger, là. Alors, mais ouais. ça, c'est le dernier. C'est le premier de la collection, mais c'est mon dernier. Et là, je n'écris plus rien d'autre pour le moment, je me concentre sur la collection.
Oui, bon, c'est ça.
Alors, moi, j'en parle dans ça. Moi, je suis étendu, là, puis je dors. Et puis, à un moment donné, je me fais réveiller exactement comme si ma femme me secouait l'épaule et me disait « Jean, réveille-toi. » Si je fais me réveiller...
« Jean, réveille-toi, j'ai le goût de faire l'amour.
Bon, » ouais, non, ça, c'était pas dans ce temps-là. Alors, je niaise. Donc, je me reviens de bord et là, j'ai l'agréable plaisir de voir une espèce de petite créature là, qui est cute. Qui est cute, qui peut, tu sais, c'est pas épeurant, pas en tout, là, c'est comme un gris, là, si tu veux, là, j'ai pas le choix de c'est, ça ressemble à ça, mais c'est pas haut, là, c'est un enfant de 5 ans, là. Et puis ça me parle, puis il me dit, et là, on a un échange incroyable où il me dit, là, il dit, est-ce que tu me sens, parce qu'il me touche, j'ai dit oui, je te sens, il dit, ah ouais, ok, il dit, là, on va essayer quelque chose, il dit, là, je vais te faire sortir de ton corps, fait, là, je sors, je dis « Ouh, wow! » Puis là, il me touche, je dis « Wow! » C'est plus la même affaire. Tabarnouche, c'est comme si on multipliait par 100 la capacité sensorielle. Et là, tout autour de moi, un peu les mêmes couleurs, là, c'est « Wow! » Là, je suis plus dans... Mon corps est dans mon lit, mais moi, là, je suis sorti. Et là, je pars avec lui, puis on s'en va quelque part. But, c'est une belle aventure. Je suis pas allé sur un autre planète. Je ne sais pas où on est allé, mais c'était bizarre en maudit. Puis là, il arrête pas de me gosser avec ça. Il dit, là, tu es sorti de ton corps, mais je vais te faire ressortir encore plus. J'ai dit, comment est-ce que je peux sortir de mon corps quand c'est fait? Et là, c'est comme s'il me faisait sortir de je ne sais pas trop quoi que j'étais pour aller dans quelque chose d'encore plus sensible, plus... Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Et ça te marque à vie, ça. Et là, tranquillement, après ça, là, il m'a ramené. Et puis là, j'ai réalisé que j'étais revenu dans mon corps, dans mon lit. Et là, il m'a dit, là, à cette heure, il dit, là, tu peux relaxer, je m'en vais. On se reverra probablement plus dans cette vie-ci, mais c'est, je suis content. Il est content, mais il me dit ça. Ben, je lui dis, bye, tu sais. Mais quand il est parti, là, j'avais le cœur brisé.
Ah oui?
J'avais le cœur brisé. C'est comme si on venait, pas de me flusher, là, je me sentais pas flushé, mais je me sentais même pas abandonné, mais maudit que, tu sais, je l'aimais, cette petite affaire-là, là, tu sais, moi, je serais resté avec, là, tu sais, j'aurais continué ça, moi, une vie durant, là. À vivre ce qu'on vivait là. C'était un aperçu de quelque chose okay. de fabuleux.
Puis encore à ce
viens
jour...
Viens pas me dire, toi, avec tes savants, que je t'ai paralysé sacrément. Hey,
puis encore à ce jour, tu te dis, c'est sûr et certain que je dormais pas puis que cette expérience-là que j'ai vécue, elle est bel et bien réelle. Puis réponds-moi, tu sais, pourquoi ils t'ont pris toi pour te montrer ça?
Parce que ça faisait peut-être 50 ans que je travaillais dans ce domaine-là. Alors, ça vient me donner de la ça vient me nourrir, t'sais? Ça vient me donner de la matière, t'sais? Je veux dire, si j'avais été un savant, un homme de science qui travaillait sur, je ne sais pas, moi, un remède miraculeux, je ne sais pas, moi, puis il serait venu, il m'aurait dit, regarde, je vais te donner des hints. Viens avec moi, je vais te montrer des choses, tu sais, puis il aurait montré des plantes. Tu comprends-tu ce que je veux dire, tu sais, dans son domaine, tu sais? Ben là, si tu lui demandes pourquoi toi, ben il va te dire, je suis biochimiste, si bol. Tu l'université, puis je travaille sur ça, ça, ça. Fait qu'on est venu, quelqu'un est venu me donner du stock, du matériel. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que moi, ça m'a ouvert la porte sur bien des affaires, cette expérience-là. Puis en plus de ça, t'en ressors pas exactement comme t'étais non plus avant. Moi, ça a ouvert encore plus mon esprit. Tu peux dire, comment tu peux faire ça? Il est ouvert à 360 degrés. Oui, mais tu peux ouvrir plus que ça encore. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis je l'ai fait encore récemment, pour ça. Récemment, là, en lisant quelque chose qu'une de mes auteurs m'a envoyé, là, j'ai fait « wow ». Tu sais, là, j'ai « OK ». Mais moi, je suis dans ça depuis toujours. Je fais pas semblant de pas l'être. Je fais pas semblant de dire que je suis contre. Puis je gobe pas tout. Puis je suis très rigoureux dans ce que je fais. Mais excepté, j'ai l'esprit ouvert, puis c'est pas une fracture du corps. Alors, puis j'ai pas peur de l'ouvrir mon esprit, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça qui fait la différence entre moi puis des hommes de science qui sont dans leur combat, leur milieu. Je respecte ça, mais qui me foutent patience parce qu'ils n'ont pas de technologie pour me suivre. C'est aussi simple que ça.
Mais t'as pas peur des fois, parce que moi je me souviens qu'à un moment donné, je dormais avec une fille, puis à un moment donné pendant la nuit, elle se réveille, puis là elle commence à me dire, là il y a quelqu'un qui me regarde dans le fond de la chambre, puis là je regarde, j'ouvre les yeux, puis moi je vois rien, tu sais.
Non.
Puis là elle me dit, il y a quelqu'un qui me regarde, puis là je dis, c'est quoi? Puis là moi je me dis, encore dans son sommeil, puis là elle me dit, ben c'est un gars qui nous regarde, puis essaie de nous parler, mais je comprends pas ce qu'il dit. Chris, je veux dire, j'ai beau être un homme, là, mais tu sais, mais là, je suis dans le noir, je suis tout nu dans mon lit, je regarde dans le coin, je vois rien. Asti, j'avais la chienne. Mais elle, de son côté, c'était pas la première fois qu'elle voyait ça. Puis elle semblait comme me dire ça comme si de rien n'était. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres?
Ben, voilà, tu viens de le dire. C'est ça. Tu connais Hugo Girard?
Ben oui.
Oui. Penses-tu que tu serais capable de lever plus pesant que lui?
Mets-moi pas au défi. À tous les matins, quand je vais aux toilettes, je réalise des exploits.
Bon! OK. On s'entend que Hugo Girard, il y a quelque chose de spécial, ce gars-là. Là.
Ben oui.
Il n'est pas devenu fort de même en allant au gym. Là. C'est dans sa nature. C'est dans sa génétique. C'est dans ses gènes, comme Louis Cyr. C'est qui a même transmis ça à sa fille. Tu savais-tu ça? Sa fille était quasiment aussi forte que lui.
Que Louis Cyr. Ah, oh, ben j'ai vu le film de Louis Cyr. J'avais entendu parler de l'individu, vrai, bien ça. Entendu. Mais sa fille, est aussi forte que lui.
Oui, ben, pas aussi forte que lui, mais aussi forte qu'une femme peut l'être face à lui en toute proportion.
Je comprends.
Alors, ça se transmet. C'est génétique, ça. C'est génétique, ça. Parce que moi, ma petite fille, à moi, elle est pas forte, là. Tu sais, personne qui est fort de même. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un caractère particulier dans le génome, qui fait partie de cette personne-là. Alors, il y a des gens qui sont forts comme lui, puis il y a des gens qui sont faibles comme à peu près tous nous autres.
Pensais-tu allais me nommer? Hein?
Non, je veux pas t'humilier en public. Alors, t'as des gens, mais t'as des gens qui sont des gringalets, puis ça pas. Tu te demandes comment est-ce qu'ils font pour marcher, tu sais.
Ouais.
Alors, t'as du monde comme ça, puis t'en as d'autres comme Hugo Girard.
Ouais. Bon.
Qu'est-ce que je cherche de dire? C'est qu'il y a des gens qui ont une sensitivité psychique beaucoup plus développée de façon naturelle que d'autres. Toi, t'en as pas, elle en a. Moi, si j'avais été à côté de cette même fille-là, puis qu'elle m'avait réveillé en me disant la même affaire, j'aurais été heureux. Moi, là, je me serais accoté à la tête sur l'oreiller, puis j'aurais dit « Talk to me ». Ah ouais, qu'est-ce que tu vois? Essaye de faire ça. Essaye d'y dire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il réagit? Moi, là, j'aurais essayé de m'entremettre entre les deux pour essayer de provoquer une réaction peut-être plus personnalisée entre cette créature-là, puis elle. J'aurais adoré ça.
Parce que cette histoire-là, quand c'est arrivé, ça m'avait beaucoup marqué, Jean. Puis après ça, je repensais à ça, puis je me disais, mais quand on était jeune, j'avais des amis, moi, qui avaient des amis imaginaires. Puis...
Oui, mais ça, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose?
Les amis imaginaires. Non, moi, j'ai quand j'étais petit, moi, j'étais pas un garçon... J'ai pas eu une enfance très heureuse, là, et puis... Puis j'avais pas un frère qui était bien, bien fin avec moi, là. Alors, je n'étais pas très bien chez moi. Alors, je suis devenu très solitaire assez rapidement. Et puis, à un moment donné, j'avais lu Tintin au Tibet. Tu sais, dans ça, il y a Chang, là, tu sais, le petit chinois, là.
Oui.
Bon, le petit chinois qui s'est fait enlever par le Yeti, là, puis tout ça. Alors, moi, ça m'avait frappé, ça. Puis, ce qui m'avait frappé, c'est l'amitié incroyable que Tintin avait envers ce petit gars-là, tu sais. Puis qui était prêt à aller dans les Himalayas pour aller le chercher, là, tu sais. Wow! Moi, j'ai trouvé ça magnifique, ça. Et ça m'a influencé. Alors, j'ai décidé que Chang serait mon ami. Alors, je me l'inventais. J'y parlais, tu sais.
Okay.
Puis, alors, oui, je me suis fait une espèce de copain,
Un monde parallèle.
une espèce de monde parallèle, mais j'étais, malgré tout ça, j'étais fondamentalement conscient que c'était pas vrai,
OK.
tu sais, qu'il était pas là,
Parce
tu
que,
sais.
tu sais, moi, je me souviens, là, j'étais très jeune, puis j'en voulais des fois à ma tête parce que j'étais pas capable d'avoir un ami imaginaire. Puis mon chum, là, Yann, s'il nous écoute, il va rire, là. Il était prêt à me jurer que son ami imaginaire existait, là. Il était persuadé que son
Oui,
ami imaginaire
il y a
existait.
des degrés,
Il le
mais
voyait, puis il jouait
ouais.
avec, puis il se
Mais
parlait le soir.
attention là, des fois c'est vrai. Des fois c'est vrai. Alors là, c'est là peut-être qu'à un moment donné, faut réaliser que si des enfants sont sensitifs, autrefois tu sais comment on les appelait, les sensitifs?
Les sorcières,
Non, des médiums.
des médiums.
Oui,
Allez, autrefois, c'est
c'est
v'là
un
10 ans.
terme, encore là, non, encore là, Yannick, c'est mon milieu, c'est mon domaine.
Ouais.
Et moi, je te dis que c'est une expression qui date du 19e siècle, ça aussi.
Ah ouais.
Alors moi, non, je n'utilise plus ça. J'utilise le mot sensitif. D'ailleurs, c'est celui qui est reconnu par la communauté parapsychologique. Des sensitifs, des sensitives. Pas des sensibles, des sensitifs. Alors ça, c'est autre chose. On aurait pu trouver un autre mot. Mais médium était correct, parce que médium, ça veut dire intermédiaire entre un être humain et un être qui ne l'est pas. C'est un très beau mot, mais le vocabulaire a une charge historique qui n'est pas nécessairement positive. Alors, c'est pour ça que moi, je n'aime pas parler de médium, je n'aime pas parler de soucoupe volante, je n'aime pas parler de voyage astral. J'essaie d'avoir un mot contemporain, une expression plus contemporaine, puis qui est dégagée des charges négatives que certains vont charrier avec un plaisir presque orgasmique, parce que c'est peut-être la seule façon qu'ils sont capables d'en avoir un. Alors, c'est pour ça que moi, je mets ça de côté, ces mots-là, et j'y vais simplement avec un vocabulaire plus moderne, si on peut dire. Alors oui, les sensitifs peuvent naître comme ça. En fait, ils naissent comme ça. Et c'est ceux-là qui, à un moment donné, vont te jurer que leur ami imaginaire n'en est pas un, imaginaire, puis c'est vrai. Ils ont tout à fait raison. La collection, les livres dont je te parle, c'est pacté de ça. Quand tu auras le plaisir de recevoir des Monique Beauregard ou des Chantal Goupil sur ton émission, là, tu leur poseras la question directe. Voilà la réponse qu'ils vont te donner. Et du type d'expérience qu'ils ont vécu. Alors ça, vois-tu, c'est la beauté de ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que oui, il y a des gens qui ont ce don-là, j'aime pas le mot don non plus, là, je viens de l'utiliser, mais ils ont cette capacité-là, puis ils l'ont de façon naturelle, au même titre qu'il y a des gens qui sont albinos, il y a des gens qui sont hyper forts, comme Hugo Gérard, il y a des gens hyper intelligents qui sont capables de multiplier 260 par 420, paf, ils te donnent la réponse. Moi, ça me prendrait une semaine, même avec une calculatrice. Alors, tu sais, il y a des gens qui sont dotés de pouvoir ou de capacité. Encore là, je préfère dire capacité, mais qui ont des capacités, mais qui, à un moment donné, dépassent celles des scientifiques de la comprendre. C'est pas parce que les scientifiques la comprennent pas qu'elle n'existe pas.
C'est quoi, tu me disais? Tu me disais 260 divisé par 420?
Bon, en tout cas,
C'est
multiplié, là, mais.
0,62, je te l'arrondis un peu, là.
Ouais, je sais bien, mais tu as pris ta calculatrice. T'es
Je
vu,
voulais avoir de
t'es
l'air
vu.
intelligent. Je voulais avoir de l'air
Ouais.
intelligent. Jean, il y a une question qui me brûle les lèvres, là. Je vais te la poser. À quoi ça servirait tout ça, notre arrivée ici? Le fait qu'on est là, on est-tu, selon toi, on est-tu une expérience? Parce que, tu sais, il faut que ça serve à quelque chose, cette vie-là. Là. Si jamais il y a d'autres choses qui existent, comme tu nous mentionnes, moi, je le mets au conditionnel, là, toi, tu es persuadé. S'il y a d'autres choses qui existent, Jean, à quoi ça sert de pas rentrer dans nos vies et de nous dire, ben voici notre visage, on est là depuis la nuit des temps, nous autres aussi?
Ah oui, ça là, c'est la question du siècle, mon grand. C'est pour moi, c'est très facile de répondre à ça, c'est parce que c'est un questionnement que j'avais quand j'avais 8 ans. Alors que... Quoi? Ça arrive.
Ben là, j'ai 40 ans, je te pose la question, sacrément, tu me dis que tu as eu cette réponse-là là, quand tu avais 8 ans.
Ben, j'ai eu le même questionnement à 8 ans, oui, absolument. Moi, je me poignais avec les sœurs et puis les frères des écoles chrétiennes, moi, sur des données philosophiques puis religieuses, tu sais, puis ainsi de suite. Bref, j'ai eu ce questionnement-là toute ma vie, mais j'ai fini par répondre. Mais moi, en ce qui me concerne, je peux te donner la réponse, mais théoriquement, c'est quelque chose qui... j'ai écrit des livres là-dessus parce qu'à un moment donné, il fallait que je réponde à ça. Mais en gros, tu peux le voir comme ceci. C'est que je vais commencer par la fin et non pas par le début, quand tu viens au monde, mais quand tu le quittes, quand tu meurs. T'sais? La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui survit à ça? Est-ce que la mort, tu sais, encore hier, je regardais un film, puis à un moment donné, le gars disait, j'espère qu'ils vont enterrer ma mère dans le cimetière un tel, parce qu'il y a des arbres, il y a des oiseaux, puis tu sais, sacrement, le pot de sang qui est là, il s'en fout des arbres, des oiseaux, là, tu sais. Tu peux le mettre dans une dompe, là, ça va être la même chose pour les cendres, je parle, tu sais, le carbone qui est là. Le reste est parti en fumée puis en vapeur. T'sais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a survécu à cette mort-là? Moi, en ce qui me concerne, c'est évident. C'est très clair. C'est mon je. C'est moi. C'est ma personnalité. T'sais. Je veux dire, moi, j'ai vécu une expérience il n'y a pas tellement longtemps où j'ai eu le plaisir de voir dans mon corridor mon ancien directeur du CEPI que j'avais dans l'Outaouais,
ouais.
Qui était Richard Guilbeault, qui est décédé récemment. Et puis, j'y avais pas parlé depuis 20 ans. Il m'avait écrit, je me sentais un petit peu coupable, j'y avais répondu, mais pas plus que ça. Tu sais, comme ça me tentait pas de renouer pour toutes sortes de raisons. Alors, je l'ai laissé tomber, puis pouf, un an après, je reçois le courriel qui est mort. Alors là, j'ai fait « wow ». OK, là, je me suis senti cheap un peu. Alors, j'ai commencé à repenser à lui, puis à tout ce qu'on avait vécu. Puis là, j'ai commencé à écrire quelque chose pour mettre sur Facebook, puis envoyer à sa veuve. Et là, je lève les yeux, puis il est direct là. Alors, et là, j'ai eu une bouffée d'émotions que je serais incapable de reproduire. Un, parce que je suis pas un comédien, puis deux, parce que je suis pas capable. Moi, je suis pas capable, même pas, de me mettre à faire surgir des larmes puis une émotion à fret de même. Je suis pas capable. T'sais? Alors, il faut que quelque chose vienne me stimuler pour que je fasse ça. T'sais? Alors, là, c'est ça. Puis, c'est pas ce que je suis en train d'écrire. C'était même froid un peu, je trouve. Et là, j'ai wow! À un moment donné, c'était tellement fort. J'ai dit, toi, mon gros sacrement, va-t'en. T'sais? Va-t'en, je suis plus capable. T'sais? Parce que c'était trop puissant. C'était trop fort. Il y a des émotions que je suis capable de stander, mais pas toutes. Puis ça, c'était trop. Mais c'était tellement des belles émotions, ça qui est le pire. Là. Puis c'était un peu. Puis l'échange que je pensais avoir avec. C'est quand à un moment donné, il me dit là, j'en sais plus que toi sans mort. Puis là, il part à rire. Tu sais. Mais ça, c'est lui, ça, de me dire ça. Parce qu'on avait souvent des discussions, puis à la fin, il disait tout le temps, « OK, t'as raison. » Je trouvais ça drôle parce qu'il essayait de me bloquer, il essayait de me fourrer, il essayait de me pogner dans quelque chose. Puis on avait souvent parlé de la mort. T'sais. Alors là, sa réponse, c'est que là, à ce temps, moi, là, je sais plus que toi ce que c'est. T'sais. Et j'ai éclaté de rire intérieurement. Alors, ça, c'est une maudite belle expérience. T'sais. Mais ça, ce que ça me dit, c'est que c'est pas ces neurones qui ont, c'est pas mes neurones puis les siennes qui ont inventé ça, là. Parce que moi, c'est, oui, c'est vrai que là, je parlais de lui, tout ça, mais j'avais pas le fond émotionnel suffisamment puissant et intense pour créer une apparition comme celle-là. Pas du tout. Sans ça, je meurais tous les jours. Alors ça vient pas de moi, ça vient de lui. Puis pourquoi? Parce que probablement que j'étais en train d'écrire sur lui, puis il est venu me voir. Ça a duré 10 secondes. Peut-être qu'il a fait la même chose avec d'autres, mais ils l'ont pas vu, puis ils l'ont peut-être ressenti. Moi, souvent j'ai accompagné des gens qui vivaient un décès, et puis ils sont là, puis ils m'en parlent, ils sont devant moi, tu sais, puis là, oups, là, je sens une... par empathie, là, je sens une montée émotionnelle tranquillement. Puis à un moment donné, c'est un burst. Ça éclate, ça explose. Puis là, elle dit, c'est comme s'il était ici, là. C'est comme si je le sens ici, là. C'est la même chose que moi. Moi, je l'ai vu, mais pas eux autres. Ils l'ont pas vu, ils le voyaient pas. Puis c'est peut-être mieux, parce qu'il aurait peut-être pogné un nerf, ça aurait tout gâché, tu sais. Mais là, le moment, parce que... That was a moment. Et ce moment-là, pour eux autres, c'est miraculeux, c'est fantastique. Alors, combien dans mes auteurs, il y en a une, là, m'ont dit, ben c'est ça, Monique Beauregard, elle vient juste de sortir son livre, Les secrets de ma chambre forte. Ça vient juste de sortir, là. Il est frais sorti de Puro Later. Et dans ça, à un moment donné, sa grand-mère, elle la voit, là, mais elle n'est plus capable. C'est trop fort. Elle a à la fois une joie, mais une peur bleue, parce qu'elle n'est pas vieille, elle a une vingtaine d'années. Elle a une peur bleue. Ça ne se peut pas que sa grand-mère qui est morte soit là. Alors, elle le voit bien avec son jugement rationnel, dit, ça ne se peut pas. C'est épouvantable. Qu'est-ce que ça fait là, ça? J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais en même temps, c'est grand-maman que j'adore. Puis il y a carrément... Ça passe pas bien rien qu'une fois. Parce que Monique, c'est une sensitive grave, là. Une sensitive universitaire. Mais elle a carrément dit à sa grand-mère de s'en aller. Elle revient plus, grand-maman. Elle revient plus, je suis pas capable. Puis... La grand-mère est disparue, elle n'est plus jamais revenue. T'sais.
Okay.
Alors, où est-ce qu'elle est allée?
On ne sait pas, mais c'est ça ma question, Jean. C'est la grande question, à quoi on servirait?
Où est-ce qu'elle est allée? Elle est allée dans un monde,
ouais,
où son environnement est de la même substance qu'elle-même, mais qui nous est invisible.
Okay.
Je pourrais dire une quatrième dimension, une cinquième dimension, une autre dimension. Mais je te rappelle que actuellement, en mécanique quantique, en physique quantique, la théorie des cordes, on parle de 10 autres dimensions.
Oui, puis ça, j'invite tout le monde à lire sur la théorie des cordes. Essayez de lire 2-3 fois parce que c'est assez complexe à comprendre. En tout cas, pour moi, ça a été un peu complexe.
Extrêmement compliqué.
Mais je trouve ça franchement intéressant. Mais tu sais, je reviens sur ma question de départ initiale, Jean. À quoi on... Parce que moi, je suis vraiment, là, tu sais, bon, là, ça a parti du Big Bang, puis l'univers a grandi, puis on est arrivé à un moment donné, puis... Puis mon cerveau s'arrête là, Jean. Mais toi, dans ton cas, ce que tu as l'impression, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Mais s'il y a plusieurs dimensions, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé de tout ça, là.
Ah, ben là, oui. Oui, c'est sûr. Moi, je ne veux pas embarquer non plus dans un débat religieux sur Dieu,
non, je comprends,
la création, puis tout ça.
Mais tu sais, peu importe comment on va l'appeler, il y a quelqu'un qui aurait mis ça en place.
Oui, ben,
s'il y a plusieurs dimensions, il y a quelqu'un qui a mis ça en place.
Il y a une intelligence supérieure à la mienne. Moi, je suis plus intelligent qu'une poule. Comprends-tu? Je veux dire? Non, mais le décalage, il est là en testament.
Ouais.
Tu sais, une poule, cibole. Tu sais, à peu près rien que ça qu'il est capable de faire dans la vie, puis chier des œufs. Tu sais.
Ouais.
Non, écoute, une poule, c'est une poule. Alors, le décalage d'intelligence qui est entre elle puis moi, et le décalage d'intelligence ou de sensibilité ou de ce que tu voudras, entre moi et un esprit qui vivrait dans une autre dimension, c'est la même chose, là. Alors, le problème de l'anthropomorphisme dont tu souffres, c'est que pour toi, la vie, la conscience, tout, ça s'arrête à l'homme.
Exact.
C'est plop, ça s'arrête là.
Mais
on
je trouve,
est le
mais,
sommet,
mais
on je, est le top.
Sauf que Jean...
On te l'a mis dans la tête.
Sauf que Jean... Exactement. On me l'a mis dans la tête, mais
je
ne suis pas fermé. Tu comprends? Je suis pas fermé, je suis ouvert, je suis assez attentif.
On n'aurait pas cette discussion-là.
Exact. Je suis assez attentif à tout ce qui se passe autour de moi, puis je me pose de multitudes de questions. Mais, tu sais, moi, les religions, j'ai de la misère à embarquer là-dedans, mais c'est sûr et certain que si j'embarque...
C'est un livre, moi, qui a dit « Les religions, c'est assez ». Si, ton bord là-dessus.
Si j'embarque dans le concept qu'il y a plusieurs dimensions, nécessairement, il y a quelqu'un qui régit tout ça. Puis peu importe comment on l'appelle, ben il y aurait quelqu'un qui est une intelligence supérieure qui aurait décidé
oui,
ça.
Mais c'est pas difficile à accepter. Je viens de te le dire. Regarde la différence, le décalage qu'il y a entre un ver de terre et Einstein. Les deux sont en vie. Les deux vivent. Alors, pourquoi il y en a un que tout ce qu'il sait faire, c'est nourrir la truite qui est au bout de mon hameçon, puis que l'autre, E égale MC2, puis la relativité, puis mm-hmm. ce que tu voudras. Le décalage, il est immense. Mais pourquoi il s'arrêterait là? Qu'est-ce qui l'empêche de s'arrêter là? Parce qu'à partir du moment où on comprend un principe qui s'appelle le télos de l'univers, c'est-à-dire le but de l'univers, l'objectif de l'univers, on le voit très bien parce que l'univers est en expansion, et on voit aussi que l'être humain ne cesse pas d'évoluer. T'es-tu regardé à Bep, toi, il y a de 200 000 ans?
Ouais, j'étais pas là.
Ah, mon Dieu, ça ressemblait à Legault. Ah, c'était pas drôle.
Ouais, on était...
C'était pas drôle.
J'étais un peu plus beau. J'étais un peu plus beau.
Ouais, c'était pas beau, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Oh oui, je passe mes petits messages de même de temps en temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 200 000 ans, 300 000 ans, là, regarde, on était des Homo erectus, on était debout, Homo habilis, on était capable de construire des choses, on avait découvert le feu, où ça s'en venait. Mais on a évolué, là.
Oui.
Tout évolue. Ah, je reconnais qu'il y a des espèces qui n'évoluent pas beaucoup. Le requin, par exemple, ça n'a pas bien évolué, ça.
Le politicien non plus.
Il a évolué le requin parce qu'il était bien plus gros que ça avant. Alors, il s'est adapté, mais il a cessé un peu son évolution. Donc, ouais. L'environnement va créer un facteur d'évolution. Chez nous, on a découvert, j'ai écrit un article sur mon site, moi, là-dessus, qui est fantastique. Pas l'article, mais le sujet de l'article est à l'effet qu'on a découvert que la raison pour laquelle nous, on est devenu ce qu'on est, alors que nos copains bonobos, gorilles, chimpanzés et compagnie sont pas mal restés où est-ce qu'ils sont, c'est un petit os de rien. Ça va-tu ça?
Ben oui.
Oui, là, tu savais?
Ben oui, je savais.
Bon, comment il s'appelle?
Ça, je m'en rappelle pas, t'as une meilleure mémoire que moi.
C'est drôle. Non, je me pète la gueule. C'est l'os sphénoïde.
Sphénoïde.
Sphénoïde. S-P-H-E-N-O-I-D-E.
C'est pas sphénoïdal?
Oui, sphénoïdal.
Ouais, c'est ça, voilà.
Il se retrouve dans le crâne, à peu près juste un peu au-dessus des yeux, là, ou à cette hauteur-là. Et sa position... Parce qu'on a ramassé des crânes, nous autres, d'humains, là, tu sais, depuis longtemps, on en ramasse, là, tu sais, on en ramasse bien qu'on 6 millions d'années. Fait que... Alors, paléontologues sont mis à regarder ça, puis là, ils ont réalisé que quand le crâne venait de prendre 100 cc de plus ou 200 cm3 de plus, le sphénoïde n'était pas en même place. Il venait de se déplacer, et en se déplaçant, il causait un vide, et que le crâne pouvait en prendre plus. Donc, la masse cervicale s'est développée parce qu'il y a de la place. Ce qui veut dire que notre cerveau prend de l'expansion, mais c'est sûr que c'est pas dans une génération ou deux qu'on va voir ça. Mais on évolue.
Oui.
Alors, l'univers aussi évolue. Ce qui veut dire que l'univers de trois dimensions et celui d'une quatrième, une cinquième, est-ce que ça s'arrête? Moi, je pense que l'évolution ne s'arrête jamais. Jamais. Ça peut, à un moment donné, une branche va s'éteindre. Boum, fini, n'a plus. Ça peut arriver, ça. Mais Autrement, elle évolue, puis tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Une planète évolue. Même un soleil évolue. À un moment donné, il devient un trou noir.
Oui.
Alors, tu sais, mais il évolue à sa façon.
Exact. Hey, Jean, on va devoir faire une courte pause, mais juste revenir sur le fameux os.
Cœur de feu, artiste du tricot, contorsionniste, danseur, chanteur, ainsi que le populaire millimétrique. Émerveillement, surprise et fascination seront au rendez-vous à Fiestra. Découvrez la programmation au fiestra.ca.
Magasiner en français, c'est partager notre langue, notre savoir-faire dans nos actions et nos échanges. C'est participer à la croissance des entreprises d'ici. C'est se choisir en tant que personne fière d'elle-même et de son identité si unique. C'est faire grandir une langue internationale pour ceux qui l'apprivoisent. C'est s'aimer, partager et propager maintenant et pour toujours son identité québécoise si inspirante. Magasiner en français, c'est acheter ici et en français. Un message d'impératif français.
À Boulevard 102.1 cet automne. On complète l'alignement de feu de Gravel dans le retour.
C'est sa grand-mère à
ça, c'est ma grand-mère.
C'est ta grand-mère.
Et de Rage Against the Machine.
On n'arrêtait pas avant ce bout de
là. Non, j'allais le mettre, là. Comme toi, le cowboy.
Avec un nouveau show, Marceau et Hello prennent la barre de Marceau le midi. Aussi, Mathieu Marcotte, Dan Demann et Thomas Gauthier. Cet automne encore, et plus que jamais, Boulevard 102.1, c'est plus que du rock.
Gravel dans le retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on veut pas se vanter, mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoires à raconter.
Nathan Meilleur, t'es une richesse rare dans le monde de la radio de Québec. T'es born and raised à Limoilou.
Un vrai de vrai.
Un vrai de vrai.
Yes.
Toute ta vie, t'as entendu du monde comme moi, des imposteurs qui viennent d'ailleurs, qui s'installent à Québec puis qui te disent qu'est-ce qui marche pas dans ta ville,
oui.
Pourquoi il faut améliorer telle chose et telle chose.
Tout à fait.
C'est poche, hein?
Exactement. Ben écoute, c'est pour ça que j'étais content d'avoir l'opportunité d'avoir un micro, ouais. Enfin, à un moment donné, pour pouvoir intervenir moi aussi.
T'as-tu étudié en radio en tant que tel?
Pas du tout.
Non?
Pas du tout, du tout. Moi, j'ai un parcours vraiment hyper atypique.
Ouais.
Moi, je me suis perdu à l'école après le secondaire. Fait que quand je suis arrivé au cégep, je faisais de l'impro.
Mm-hmm.
Puis mon cégep m'a servi à faire de l'impro. Fait que j'ai même pas complété mes études collégiales. Il me manque mon épreuve uniforme de français, ce qui est épouvantable. Puis il me manque un ou deux cours de philo puis d'éduc, là, par-ci, okay. Par-là. Mais à partir de là, moi, je me suis comme frayé un chemin dans la vie. J'ai fini par faire un DEP en service de la restauration. Fait que okay. Moi, sur papier, je suis serveur professionnel.
C'est ça. Ben, que je fais. Tu t'occupes du monde. À la base, c'est la même job.
Mais c'était ça. C'était vraiment tout le temps d'avoir un terrain de jeu pour communiquer avec les gens. T'sais, ça a toujours été ça. Moi, j'aimais ça jaser. Fait que l'impro est entré dans ma vie quand j'étais très, très jeune. J'avais 8 ou 9 ans à peu près. Puis déjà, cette plateforme-là me plaisait énormément. Puis après ça, ben, le service en restauration, ça a été un peu le même principe, de pouvoir jaser avec les gens pendant les repas. Puis c'est tout le temps des périodes de bonheur. T'sais, les gens qui viennent s'asseoir au mm-hmm. restaurant, c'est plutôt rare que les gens viennent dans une atmosphère désagréable. Ils viennent se gâter. Fait que c'était tout le temps le fun.
À moins de venir laisser sa blonde ou son chum au restaurant.
Ça m'est arrivé, écoute, avec nul autre que Patrick Roy, je peux dire ça.
Hein?
Ouais, j'ai vécu ça. Moi, j'étais pendant l'instance de divorce de Patrick Roy. Je travaillais dans un restaurant sur Grande Allée.
OK.
Puis c'est arrivé à quelques reprises, c'était le terrain neutre, le restaurant où je travaillais.
Hey God!
Je le nommerai pas, mais c'est ça. Moi, j'étais dans les cuisines à ce moment-là. J'étais pas serveur, par contre, mais on le savait clairement. Puis à un moment donné, whoop, il revenait. Puis à un moment donné, ben, ça a fait le front page
tu,
journal.
Tu sais que c'est le genre de repas où tu vas pas aux 30 secondes lui demander si c'était le goût.
Non, c'est ça, c'est tranquille. Mais à chaque fois qu'on avait une salade mimosa qui sortait pour M. Roy, on savait qu'il était là en train de jaser d'affaires plates à ce moment-là.
Hey, quand est-ce que tu as eu ta première opportunité à week-end? Comment c'est arrivé?
La première opportunité que j'ai eue à week-end, ça fait déjà un bon moment, en fait. C'était déjà, il y avait une émission qui s'appelait La Scène depuis oui. à peu près le début. Quand week-end est arrivé à Québec, déjà, c'était important qu'on fasse une place à la musique franco, aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes d'ici. Puis à l'époque, il y avait un animateur qui était là en place, Seb, qui lui m'avait proposé de venir faire des chroniques parce que moi, j'ai toujours baigné dans le monde de la musique. T'sais, je joue de la batterie,
mm-hmm.
J'étais en concentration musique au secondaire. Donc, je connais quand même pas mal de gens, pas mal de musiciens. T'sais, la clique de musiciens, musiciennes à Québec n'est pas très, très grande non
ouais.
plus. Fait que tout le monde se connaît, puis il y a des gens qu'on a vu évoluer là-dedans. Fait que j'avais commencé comme ça, un petit micro par-ci, par-là. Mais moi, j'étais conseiller publicitaire ici, chez okay. Leclerc Communication. Okay. Moi, j'ai commencé comme ça. Weekend est arrivé en juin 2012. Puis moi, je suis arrivé au mois de novembre ici. Fait qu'à l'époque, moi, je vendais le Weekend qui venait d'arriver dans le marché. Et c'est quoi? Parce que le 102.1, c'était la bannière C'est quoi?
Oui, oui, oui.
À ce moment-là, donc j'étais conseiller publicitaire pendant 3 ans.
Un des 40 changements d'image de Boulevard. On fera une série de podcasts là-dessus éventuellement.
Hey, ça, oui. Il y a 6 saisons de podcasts à faire sur les changements d'image, changements d'animateur, d'animatrice. Mais c'est ça. Après ça, j'ai quitté pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, je l'avais signifié, mon intérêt, pour être en arrière d'un micro. Mais il n'y avait pas d'opportunité.
Je remarque qu'on a un point en commun. C'est notre passion pour la musique qui nous a amenés vers ce domaine-là.
C'est quand... Écoute, quand le téléphone a sonné, là encore là, je vais être bien honnête, quand le téléphone a sonné, c'est Steven Croiteau, le directeur de la programmation, qui m'appelle pour me demander de venir faire un démo pour remplacer pendant la période estivale sur une émission qui s'appelle La Terrasse avec Sylvie Goulet.
Oui.
Je l'ai envoyé promener.
Pourquoi?
J'ai dit, laisse faire, tu sais, qu'est-ce que tu veux pour vrai? Qu'est-ce que tu veux pour vrai? Parce que moi, dans ma tête à moi, quand j'étais là, j'avais déjà levé un flag, mais on m'avait rencontré et on m'avait dit à ce moment-là, tu sais, Nathan, il n'y a pas de place en arrière d'un micro.
Ouais.
Tu comprends que la job que tu as à faire, c'est d'être là comme conseiller publicitaire. J'avais compris ça, mais au moment où il m'a appelé, je ne l'ai pas cru. Sur le coup même. Puis finalement, je suis venu faire le démo. J'ai passé un super bel été avec Sylvie. Et le plan de match à ce moment-là, c'était que je remplaçais pour l'été, tout simplement. Puis finalement, à l'automne, là, j'ai eu une rencontre avec les patrons. On avait une collègue qui est tombée en congé de maternité. Donc là, j'ai eu une opportunité de venir à temps plein faire de la radio. Donc ça m'a été offert, écoute, sur un plateau d'argent. Là.
Puis la complicité que tu as bâtie avec Sylvie pendant un été, ben c'est devenu la complicité de l'émission Les Retours que vous faites maintenant avec Gab, avec Matt Marcotte.
Hey, ça a été, tu sais, l'endroit où j'étais juste avant de revenir à la radio, j'aurais pas quitté cet endroit-là parce que j'avais une opportunité incroyable en fait de gang, d'effet de groupe comme ça. On était vraiment comme une famille. Quand j'ai eu l'opportunité de m'en venir ici, je le savais qu'avec Sylvie, il y avait déjà ça parce que, ayant été conseiller publicitaire avant,
t'as connaissais
déjà.
Je
connaissais déjà Sylvie. Puis Sylvie, c'était une des animatrices qui était déjà hyper disponible pour nous aux ventes. Fait que, elle venait aux rencontres avec nous pour rencontrer les clients.
C'est une passionnée, là.
Ben oui. Puis, on se souvient qu'on avait besoin de ça au départ parce que nous, on allait cogner aux portes, puis on avait nos téléphones cellulaires, puis on avait des petites playlists, puis on faisait écouter aux gens le style musical qu'on présentait au week-end.
C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on est.
C'est ça, en plein ça. Puis en même temps, de l'autre côté, on présentait C'est quoi qui était à l'époque. Je pense que je le dirais comme ça, c'est un format très montréalais qu'on proposait ici à
C'est quoi. Le souvenir que j'en ai, comme gars de radio qui était ailleurs, c'est « ça marchera pas, ça fait trop Montréal ».
C'était un duo d'humoristes avec un animateur qui est un format très, très connu, très, très répandu. C'était très stagé, c'est très scénarisé.
Ouais.
C'était comme ça, c'était très scénarisé aussi, alors que, tu sais, la radio de Québec...
Ça n'a jamais été ça beaucoup.
Ça n'a jamais été ça. Puis, tu sais, on l'a essayé, puis ça ne fonctionne pas, ce genre de format-là. Fait que c'est ça, tu sais, il y avait déjà ce fit-là, bref, avec Sylvie. Puis là, quand je suis arrivé, tu sais, Gab Marino aussi, je le connaissais parce que, en même chose, tu sais, moi, Gab, je l'ai vu rentrer ici, il sortait du CRTQ. Il venait faire son stage. Moi, Gab, j'y écrivais au début des courriels pour lui demander « Peux-tu me sortir telle cote de tel animateur pour que je la renvoie au client? » Puis là, finalement, on travaille ensemble à tous les jours. Puis Mathieu, c'est Mathieu Marcotte. Que dire d'autre?
Écoute,
qui ne s'entend pas bien avec Mathieu Marcotte? Cette personne-là n'est pas un être humain normal.
Il est dans cette longue liste, et il y en a beaucoup dans l'univers de Leclerc Communication, dans la longue liste de ce qu'on va appeler les meilleurs gars du monde. Là.
En plein ça.
J'embarque Reg là-dedans, j'embarque Dallaire là-dedans, je t'embarque là-dedans d'ailleurs.
T'es là-dedans aussi.
Peut-être.
T'es dans cette liste-là.
J'aspire à le devenir, tu sais, moi le dire comme ça.
Moi, t'es une belle découverte, honnêtement. Quand on a commencé à travailler ensemble, tu sais, puis c'est ça qui est le fun avec cette formule-là de podcast, c'est qu'on peut dire les vraies affaires. Mm-hmm. Pas qu'on dit pas les vraies affaires en nombre, mais des fois, on se limite.
On a le temps
de jaser des vraies affaires, mais tu sais, moi, j'ai quitté ici quand Boulevard est devenu Talk Radio. Puis parce que comment je dirais ça? Parce que j'ai... certaines façons de penser, je pense, qui auraient clashé avec
ce que t'es.
Avec ce que je suis, puis avec certaines personnes qui s'en venaient.
Je comprends.
En onde. Puis à un moment donné, pour représenter un produit, pour le vendre,
faut
que tu y crois. Puis ça, je pense, j'aurais trouvé ça plus difficile. Pour être 100% honnête, j'aurais trouvé ça vraiment tough. Puis quand toi, tu t'en venais, sachant d'où tu t'en venais depuis tant d'années, puis sachant le format, puis l'aura qu'il y avait autour de cette station-là, quand t'es arrivé après 15-20 minutes, on s'est croisés, puis on s'est mis à jaser, puis on s'est mis à parler de musique. musique à peu près instantanément.
Ouais.
Ça a été... L'espèce de préjugé que j'avais a été complètement brisé.
Mm-hmm.
Puis j'ai découvert le Denis Gravel. Je pense que bien des gens avaient découvert déjà où tu étais avant, mais que bien d'autres personnes à Québec découvrent depuis que tu es ici à Boulevard.
Tu sais, tu parles d'un moment où tu as décidé de quitter parce que tu croyais pas en ce que tu avais à vendre. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait aussi. Je veux dire, quand tu regardes le reste d'un environnement de travail où tu es, puis que toi, tu t'en vas complètement dans une direction, puis que les autres s'en vont complètement à l'opposé. À un moment donné, c'est drôle d'être le mouton blanc qui fausse d'une chorale, tu veux travailler avec du monde qui te ressemble un peu plus. Puis moi, j'aime travailler en équipe, dans une grande équipe où tout le monde voit les choses un peu de la même façon, puis que tout le monde veut s'en aller à la même place. Fait que ça y allait de soi. Mais on n'est pas là pour parler de moi, Nathan. Aujourd'hui, dans le podcast, on reçoit Nathan Meilleur, qui va nous raconter son année 2022 ou comment le meilleur gars du monde a vaincu la pire marde du monde, le cancer.
Gravel. Podcast. Une production Boulevard 102.1.
Le podcast, c'est un médium extraordinaire, mais pour permettre ces podcasts-là, ça prend des partenaires qui croient au projet puis qui croient en nous depuis longtemps. Je vais juste prendre 3 secondes d'écart pour remercier les 3 chaloux de la grande région de Québec. Puis quand je dis des partenaires de longue date, quand j'ai commencé à parler de chaloux, il y en avait un. Maintenant, il y en a 3. L'original à Saint-Émile, la grande surface à Beauport, la gang d'Émilie au Grand Marché qui vous propose des pairings de bières de microbrasserie avec des produits locaux d'ici. On a fait des dégustations d'huîtres, de fromage au fil des semaines et des mois. Allez voir Émilie, posez des questions. Vous allez réussir votre dégustation, c'est garanti. Le plus grand nombre de produits de microbrasserie, les plus gros frigos de l'univers et de la business, c'est les 3 chaloux. Pour suivre les nouveaux arrivages, les nouveautés, les annonces, les spéciaux, les deals, suivez les 3 chaloux sur Facebook. C'est aussi simple que ça. Nathan, ton année 2022, elle s'enlignait pas de même. Avant que tu aies la nouvelle que tu as eue, comment s'enlignait ton année 2022?
Bien mieux que les 2 précédentes,
mm-hmm.
parce que je me souviens du... c'était le 12 ou le 13 mars 2020. Petit cul de la radio, pas beaucoup d'expérience en arrière d'un micro, d'arriver ici dans le bureau, d'être devant Mathieu, Sylvie, Gam, de les regarder puis de faire... Comment on gère ça,
mm-hmm.
ce qui se passe en ce moment? Parce que là, c'était la nouvelle. On venait d'annoncer qu'on fermait le Québec.
Ouais.
On shut down la province de Québec parce que là, la pandémie est en train de prendre de l'ampleur. Puis, et mes 3 collègues de me regarder. Puis je me souviens que Mathieu, à ce moment-là, il m'a dit... Mon gars, tu sais quoi? C'est ma première pandémie, moi aussi.
On part tous de la même place.
On part tous de la même place. Et on s'était dit, tu sais, 2020, hein? 2020, c'était l'année où tout était supposé arriver. C'était ouais. l'année de tous les possibles. Mm. Il n'y avait comme pas de limite avec cette année-là. Donc là, 2020, 2021, 2 années relativement tough. Moi, personnellement, il y a beaucoup de fatigue qui s'était accumulée aussi, pour être honnête avec toi, parce que dans les 2 cas, ma copine et moi, on n'a jamais été en télétravail. Mm-hmm. Puis au départ, je sais que le télétravail, c'était bien difficile pour bien du monde.
Oui.
Tu sais, de gérer, de travailler à la maison, c'est garder tough. Les enfants, mais c'était oui, très, très difficile. Mais à un moment donné, ça l'allégeait un peu quand même la situation, parce que là, nous, au début, ben, comme tous les parents, on faisait tester nos enfants parce qu'on pensait qu'il y avait peut-être ça. Là, on mm-hmm. attendait les résultats, et des fois, 6, 7, 8 jours hein,
oui,
au début.
Oui, c'est vrai.
Là, pendant ce temps-là, nous autres, il fallait se passer le puck parce que moi, je travaillais en présentiel ici
mm-hmm.
et ma copine, elle travaille à l'hôpital Saint-François d'Assise.
Oh,
donc,
okay.
elle aussi travaillait en présentiel. Bref, 2 années qui sont assez longues. On avait l'impression là, qu'on avait la tête qui sortait de l'eau un peu.
Mm-hmm.
Puis finalement, ben là, fatigue qui s'était accumulée, finit par aller consulter à différentes reprises, finit par avoir cette fameuse nouvelle-là qui nous a plongé dans ce combat-là dans les derniers mois. Fait que je m'attendais pas à ça, pas une minute.
Ça a commencé par de la fatigue. Ça a commencé par, tu te dis, bon, c'est 2 années difficiles, c'est un peu normal que je sois fatigué. T'as-tu fait du déni un peu par rapport à une certaine dégradation de ton état de santé? Ou avec du recul, y a-tu des signes que t'as ignorés? Ou...
Avec du recul, je les ignorais pas, mais... Ben, en fait, oui, c'est un peu ça. Je faisais comme si ça allait revenir. Mm-hmm. Tu sais, par exemple, j'ai une grosse semaine cette semaine, mais regarde, la semaine prochaine, je vais me booker moins d'affaires, puis là, je prendrai le temps de me reposer.
Je vais me reposer, puis davantage. Ouais. Faut que je recharge ma batterie de sel, puis après ça, ça va mieux.
C'est ça, en plein ça. Tu sais, mais ce qui s'est passé, au fond, c'est que c'est ça. Il y avait cette fatigue accumulée-là, puis à un moment donné, ben là, il y a des virus qui rentrent à la maison, puis là, moi, je chope un des virus, mais là, ça revenait pas. Mm-hmm. Puis moi, j'allais consulter, parce que je suis chanceux, j'ai un médecin de famille, mais tu sais, médecin de famille, n'empêche qu'il faut que tu appelles pour avoir un rendez-vous. Oui. Fait que des fois, ça peut prendre 2-3 semaines avant d'avoir le rendez-vous. Moi, j'allais à l'urgence mineure du Jeffrey Hill.
Oui.
Qui est un super endroit quand tu es